Bon, merci à tous du coup d'être venus pour cette première table ronde de la Necronomicon.
Bah, d'être resté surtout après nos 10 minutes là.
Donc l'objectif de cette table ronde, ça va être d'explorer en fait des éléments autour de l'auteur Lovecraft, l'époque à laquelle il écrivait, à laquelle il a vécu, et certaines choses en fait qu'on peut percevoir dans son texte qui peuvent trouver une espèce de enfin qui sont cohérents avec sa vie. On va dire comme ça en fait, ou qui peuvent être un reflet de certains éléments de sa vie. Donc ma première question en fait, on va ne parle pas directement de Lovecraft, mais davantage de l'époque à laquelle il écrivait et des médias dans lesquels il écrivait. On parle souvent de Lovecraft comme un des auteurs emblématiques des magazines pulp américains. Qu'en est-il de sa place vis-à-vis des autres auteurs de pulp de l'époque ?
C'est pour toi ça.
Donc, bon, on peut penser notamment alors, à Stouinet,
oui, ça tombe bien parce qu'on a ici.
Tu vas pouvoir faire un petit tour
là,
de
non, mais, oui, oui. Non, mais là, c'était quand même, on a l'un des deux spécialistes de l'histoire des pulps en France. Hein. Enfin, donc, plutôt, là, les deux spécialistes français de l'histoire des pulps.
Donc, il y a Francis à côté qui est
mieux que moi. Tout au bout, donc Arnaud de Lalande, romancier qui a sorti en fait, depuis le début de sa carrière pas moins de 9 romans, depuis Notre-Dame sous terre en 98 jusqu'au piège de Lovecraft en 2014, donc, ce qui lui vaut notamment sa présence ici. Il est également scénariste de bande dessinée chez Glénat, 12 bis, Delcourt et bientôt aux Arènes, donc avec des séries comme le Codex Sinaiticus, Le Dernier Cathare, Aliénor et Surcouf. À sa droite, Francis Valéry.
Sa gauche. C'est sa gauche à lui.
À ta droite.
À ma droite. À sa gauche. Francis Valéry, donc, qui a près de 70 ouvrages à son actif, des romans, des nouvelles, des essais, et plusieurs centaines d'articles de presse dans la presse spécialisée. Il a également été directeur de collection et traducteur. Il est également connu pour sa carrière dans le monde des spectacles vivants, donc en tant que musicien, en tant que compositeur, en tant que scénographe. Il a notamment travaillé sur la scénographie du musée des Confluences à Lyon. Ce qui lui vaut notamment sa présence ici, en fait, c'est un petit essai qu'il a sorti en collaboration avec la Maison d'ailleurs, qui s'appelle de Lovecraft à Tolkien, en fait, qui explore les deux auteurs et les liens en fait
très intéressant.
À sa gauche du coup David Camus, donc qui est également romancier avec des séries comme Chevalier du Royaume, Crucifer et Morgaine, des romans plutôt que des séries du coup. Il est également traducteur de Lovecraft donc chez Mnemos, donc toutes les retraductions qui ont eu lieu chez Mnemos autour de l'œuvre de Lovecraft, donc c'est des traductions de David Camus. Il fait également partie des auteurs qui ont travaillé sur l'ouvrage Kadat, paru dans la collection Ouroboros de Mnemos, toujours en fait. À sa gauche, à nouveau, Patrice Ouinet, dont on a un peu parlé juste avant, qui est donc reconnu mondialement pour son expertise autour du travail de Robert E. Howard, le père de Conan, notamment. C'est lui notamment qui signe les traductions en fait, de l'œuvre de Howard chez Brajlon. Il a également travaillé sur beaucoup d'anthologies et un essai récent en fait paru chez AQSF qui s'appelle le Guide Howard, qui est une manière en fait d'aborder l'œuvre de Howard que vous ne connaissez pas.
C'est pas cher et très complet. Hein.
Et à nouveau à la gauche de Patrice Ouinet, donc Christophe Thiel, cofondateur des éditions Malpertuis, donc il est également anthologiste pour cette même maison d'édition. Donc, il a notamment dirigé l'anthologie HPL 2007 et l'anthologie Rêve du Tard. On lui doit également la traduction du Roi en jaune, qui lui vaut également sa présence aujourd'hui, vu les liens entre l'univers Lovecraftien et les univers de Chambers. Et c'est également l'instrumentiste du groupe Les Deep Ones, en fait, que vous avez peut-être déjà vu en concert. En fait,
il y a un très beau t-shirt qui se balade dans la salle, d'ailleurs. Voilà. Fallait le dire.
Donc, pour en revenir à ma première question, on parle souvent de Lovecraft comme un des auteurs emblématiques des magazines pulp américains. Qu'en est-il de sa place vis-à-vis des autres auteurs de pulp de l'époque ? Donc, on peut commencer par Patrice.
Donc, sa place aujourd'hui ?
Non, sa place à l'époque.
À l'époque. Alors, Lovecraft a commencé à avoir un début de notoriété en 1924 dans les pages de Weird Tales. Weird Tales, c'est le premier pulp qui a été entièrement dévoué à tout ce qui était littérature de l'imaginaire. Alors, on n'appelait pas ça à l'époque la fantasy ou quoi que ce soit. Mais c'est un pulp qui a démarré en 1923. Il y a eu une tentative 4 ans auparavant, un magazine qui n'avait pas duré très très longtemps, qui contenait quelques récits fantastiques, d'horreur. Ça n'avait pas duré. Lorsque Weird Tales est arrivé, ça a été une véritable petite révolution sur le marché, mais pas une révolution financière, puisque la première ligne du magazine, le magazine payait très mal, était très mal distribué, et les textes étaient dans l'ensemble pourris. Grâce, c'est une, bon, si on, les exemplaires de Weird Tales de la première année sont très très difficiles aujourd'hui à avoir parce qu'ils coûtent beaucoup d'argent. Heureusement, il y a une firme américaine, canadienne, qui a, les a réédités en, en fac-similé. Et donc là, j'ai lu toute la première année de Weird Tales au cours des 2 ans qui ont précédé et il n'y a rien à sauver. C'est d'un niveau mais abyssal, c'est très mauvais, sauf un type qui était très content de voir apparaître cette nouvelle revue, et qui s'était bien évidemment H.P. Lovecraft, et qui a envoyé 5 nouvelles à cette nouvelle revue, donc c'était Enberger et Springer, qui étaient les gens, et Edwin Baird, qui dirigeait Weird Tales à l'époque, et les 5 textes sont parus, et ils sont d'un niveau, mais alors... vraiment juste là, quand on voit, ah bah effectivement, on a enfin vraiment un auteur qui est vraiment très sympa. À noter dans le premier numéro de Weird Tales, une nouvelle d'un mec qui s'appelle Anthony Rood, qui s'appelle Ooze, et qui est l'histoire d'une sorte de type qui fait pousser une sorte de créature dans son jardin avec une sorte de truc visqueux. On sent que ça annonce Lovecraft et que ça a sans doute lancé quelque peu l'idée de Lovecraft de le décrire pour cette revue. Donc, lorsque Lovecraft apparaît dans Weird Tales, il est la vedette. Alors, j'allais dire par défaut, parce qu'à côté, il n'y a vraiment pas de concurrence. Et progressivement, il va très rapidement se constituer un petit noyau de gens qui vont trouver tout ce qu'il écrit absolument génial. Mais le souci avec Weird Tales, c'est qu'à partir des années Farnsworth Wright, donc l'éditeur qu'on connaît pour être celui qui a amené la revue à sa notoriété telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, la revue qui publiait Howard, Smith... Lovecraft évidemment, Catherine Moore, etc. et j'en passe. Wright a eu un vrai problème avec Lovecraft, il a commencé à ne plus accepter aucune des nouvelles de Lovecraft dans la revue à partir des années 30. Après 31, je crois qu'il y a 2 ou 3 nouvelles simplement de Lovecraft qui paraissent dans la revue.
Bah, il a jamais la, il fait jamais la couverture, les montagnes hallucinées ne paraissent pas chez Weird Tales, dans l'abîme du temps non plus.
Donc les relations entre Wright et puis Howard étaient très conflictuelles et Lovecraft à un moment ne tapait même plus ses manuscrits, il voulait même plus les envoyer, du coup c'est Derleth ou c'est nos amis Barlow à la fin qui tapait les manuscrits, qui les envoyait directement à Weird Tales parce que voilà, les relations entre les deux étaient très très bizarroïdes. Donc pour répondre à la question, c'était un auteur qui était exceptionnel pour la revue dans laquelle il paraissait. Il faut savoir que Weird Tales, c'est une revue de 43e catégorie qui compte absolument pas dans le monde des pulps à l'époque. Il est devenu pulp par la suite, au moment de la fondation d'Arkham House, où justement ses origines dans Weird Tales ont été mises en avant. Et depuis l'arrivée de Joshi sur le monde de la critique américaine, dans les années, fin des années 70, Joshi a fait tout ce qu'il faut pour dissocier Howard Phillips Lovecraft, décidément, excusez-moi, c'est pas rien, hein, c'est l'habitude, hein, Howard Phillips Lovecraft, donc ça va se reproduire. Et Joshi fait tout ce qu'il peut depuis 30 ans, et il y arrive maintenant, pour dissocier Lovecraft de ses origines pulp. Lorsqu'il a fait paraître Lovecraft dans la Penguin Library, il y a réussi complètement.
Alors, donc, la première nouvelle publiée de Lovecraft dans Weird Tales de mémoire, hein, c'est Dagon.
C'est Dagon.
Tu me corriges. Moi, je crois que c'était 23.
23.
Et donc, Lovecraft a 33 ans à l'époque, voilà, pour vous donner un peu une idée.
Francis, oui. Peut-être pas, pardon, excuse-moi.
Non, il faut se représenter aussi, parce que là, à cette table, tout le monde a eu la chance d'avoir un livre publié en librairie, etc. Il faut se représenter que Weird Tales, effectivement, c'est devenu un truc de légende, parce que effectivement, par la suite, Lovecraft a été réhabilité, etc. Mais il y a surtout un cordial mépris, quand même. D'abord pour ce genre de littérature qui est considérée comme de l'infralittérature, et puis aussi de la part de Lovecraft, sur un certain nombre de ses congénères. Pas le noyau dur qu'il va trouver après de cette communauté assez marrante, d'ailleurs, avec justement des gens comme Robert Bloch, Matheson, etc., Clark Ashton Smith, et tout ça, toute la bande. Mais au départ, c'est quand même assez confidentiel, finalement. Et surtout, ce qui est assez fascinant, et moi, c'était un des ressorts de ma fascination pour le personnage, c'est que ce bonhomme qui porte une mythologie, on entend là, le lien avec Tolkien, par exemple, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une espèce d'univers qui crée son propre univers, sa propre mythologie. Il est assis sur ce bouillonnement mythologique, mais il n'a pas le canal de l'expression du livre. C'est-à-dire que Lovecraft n'aura jamais la satisfaction qu'ont la plupart des gens qui sont ici de voir son bouquin en librairie, simplement. Et donc, il faut mesurer aussi cette espèce de hiatus entre ce bouillonnement créatif, quand même, et cette espèce de monde qu'il habite, et puis le défaut de canal d'expression. Il s'en plaint de temps en temps, quand même, et il se plaint aussi du niveau des autres, effectivement, qui n'est pas toujours très bon.
Ah, bon. Quand il tape sur Seabury Queen, en particulier, ça vaut son prix de cacahuète.
Oui, alors on peut... On parlait de Dagon et la première apparition de Lovecraft dans Weird Tales. On peut mentionner quand même la fameuse lettre par laquelle il présente ses textes. et dont on a dit, dont Joshi a dit entre autres, que c'est un très bel effort pour ne pas être accepté. C'est-à-dire qu'il précise, d'une part, que c'est ses amis qui l'ont obligé. Ensuite, il dit, bon, ben voilà, j'ai écrit pas mal de choses, je n'ai jamais cherché vraiment à les faire lire. Tout ça, c'est pour moi-même, c'est pour développer mon sens de l'écriture. Alors voilà, je vous en envoie quelques-uns, c'est ce que j'ai fait de mieux, mais enfin, c'est quand même pas terrible. Si jamais ça vous plaît pas, parce qu'on
mais pourrait, il dit j'écris pour mon propre plaisir, mes inspirations sont des auteurs comme Poe, etc. Et il dit, je consens à ce que vous publiez mes textes, à condition que vous ne changiez aucune virgule, rien. Bon, dans le numéro d'après de Weird Tales, on a une lettre du rédacteur en chef, donc Baird, qui dit que grâce à cette lettre ou à cause de cette lettre, bon, bref, on trouvera Dagon dans le numéro suivant. Et là, il donne un extrait de la lettre de Lovecraft qui est elle-même recopiée avec des fautes. Bon, mais voilà. Donc effectivement, mais de toute façon, c'est pas qu'un détail. Hein. C'est-à-dire que le fait que Lovecraft, d'une certaine manière, n'ait pas envie d'être lu, c'est constitutif aussi de la personne qu'il est. Hein. Il veut bien être lu, mais pas par n'importe qui. Donc, c'est une façon d'évacuer rapidement le problème.
Non, mais il y a un truc très, très aristocratique.
Très aristocrate,
oui. Élitiste au sens de la supériorité, mais c'est aussi la conscience de la supériorité et d'une espèce de respect pour la littérature, et particulièrement pour cette littérature de genre. En effet, ça référence Poe, hein, quand même, enfin, entre autres. Et puis Chambers, justement.
Et pourtant, Weird Tales, c'est un pulp. Un pulp, ça tire son nom du papier sur lequel la revue est imprimée. C'est le papier, le papier pulp. Papier le plus immonde qu'on puisse trouver. Et donc, c'est vraiment la littérature qu'on prend, qu'on consomme et qu'on jette. Donc,
c'est aussi pour ça que les numéros de Weird Tales valent tellement cher aujourd'hui. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont dégradés. On ne peut même plus tenir le papier en main.
Alors là, je vais me poser en faux. Oui. En fait, c'est une revue la plus facile à collectionner, Weird Tales. Dans les pubs, enfin, je ne sais pas ce que Francis va me contredire ou pas, j'en sais rien. Weird Tales est élu par donc, une revue entièrement consacrée à l'imaginaire. Et donc, c'est collectionné par les geeks de l'époque, qui sont tous des collectionneurs. Enfin, vous imaginez très bien ce que ça peut être comme genre de créature. Donc, n'est-ce pas ? Et donc, ils les conservaient très précieusement. Les pubs les plus difficiles à trouver, ce sont ceux des revues, au contraire, généralistes, qui étaient lus. Alors là, par contre, on peut le trouver en très bon état, c'est juste impossible. La Croix et la Bannière. À trouver un Weird Tales aujourd'hui sur eBay, on trouve ce qu'on veut. Enfin, à part peut-être un ou deux numéros.
À un certain prix.
À un certain prix. Il faut être prêt à mettre le prix, mais voilà. Mais par contre, ils existent.
Mais
par
ils sont délicats à manipuler quand même.
Hein. Oui, papier. Mais par contre, vous voulez trouver un truc, un pulp de box, par exemple, avec une nouvelle de Ward. Je reprends encore. Le jour où vous en voyez un, vous le prenez. Parce que vous mettrez 5 ou 10 ans avant d'en retrouver un autre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous dégradés. Et alors tous les peuples qui sont parus dans le sud des États-Unis, là où le climat est un peu humide, c'est même pas la peine. Ils tombent en ruine. L'expérience commune d'un lecteur de pulp ou de collectionneur, c'est on prend un pulp pour lire une nouvelle, on fait comme ça, on le remet un petit peu, et vous avez des petits trucs qui tombent là. C'était des pellicules de pulp, quoi. Et donc ce qui fait que, voilà, c'est une collection un peu bizarre aujourd'hui. Peut-être que Francis pourrait dire quelques mots là-dessus.
Sur quoi ?
Sur les pulps, sur cette époque-là, le contexte dans lequel est née l'œuvre de Lovecraft.
Ouais.
Merci, il a dit un mot.
C'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est que c'est un auteur qui se différencie absolument en rien des gens qui, à l'époque, écrivaient, si ce n'est qu'il écrivait plutôt moins que les vrais pulpsters, contrairement à ce qu'on croit parfois, comme quoi Lovecraft était un piscopie. Alors il faisait beaucoup de lettres, mais finalement il a écrit assez peu par rapport à beaucoup d'autres écrivains de pulp qui écrivaient des centaines de
kilomètres.
Et puis l'autre différence, c'est peut-être que d'un point de vue strictement littéraire, il maniait peut-être un peu mieux l'anglo-américain ou cette forme d'américain devant pas mal à l'anglais britannique, plutôt mieux que la moyenne. Mais à part ça, il était logé à la même enseigne que les autres, c'est-à-dire, comme ça a déjà été évoqué, à l'époque, il n'y a pas de livres. C'est-à-dire, enfin, il y a des livres, mais c'est pour ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature générale. Il y a des revues, il y a des revues, des centaines et des centaines de revues qu'on appelle les pulps, qui sont effectivement imprimées sur du papier fait à partir de pulpe de bois, qui est donc extrêmement acide, et qui devient brun très vite, et qui casse, et qui s'effrite en petits morceaux. Moi, j'ai une grosse collection de pulps, ils sont rangés dans des poches plastiques, des plastiques spéciales qui n'est pas acide, enfin ils sont hyper protégés et tout. Chaque fois que j'en sors un de son enveloppe, il y a de la poussière au fond et des petits morceaux de papier, c'est clair. Et quand on les ouvre, il faut vraiment prendre tac, les bords restent dans les mains, quoi. Mais ceci dit, il y a aussi eu à l'époque des revues qui étaient techniquement qui étaient des pulps, mais qui étaient imprimés sur du papier de très bonne qualité. Les premiers Amazing Stories, par exemple, on appelait ça des slicks, d'ailleurs, en référence à un autre type de papier. Moi, j'ai une collègue d'Amazing Stories depuis le numéro 1, et je veux dire, les premières années, le papier est blanc, souple, ils sont comme s'ils étaient tout neufs, quoi. Donc, c'est pas aussi simple. Mais ce qui se passe, donc, c'est qu'il n'y a que des revues. Alors, le problème de la revue, c'est qu'une fois qu'elle est parue, qu'on l'a achetée, le mois d'après, elle n'est plus dans le kiosque, il n'y en a plus. Il y en a éventuellement chez les bouquinistes, mais comme tu dis, ça ne se revend pas tant que ça. Finalement, c'est des gens qui achètent, qui gardent, qui aiment ça. C'est un peu des geeks, comme vous, mais largement pire encore. Et donc, il n'y a pas... C'est-à-dire, si tout d'un coup, en 1932, vous découvrez un écrivain, et vous n'avez aucune possibilité de lire les textes qu'il a publiés en 1931, en 30, en 29...
En lui écrivant. Ce que fait Bloch, non, mais je dis ça parce que c'est ce que fait Bloch, justement, il découvre Lovecraft et il lui écrit pour avoir communication de ses anciens textes.
Plus malin que les autres, donc.
Plus malin que les autres.
C'est Bloch.
Alors ça c'est aussi une particularité des pulps, c'est que dans les pulps, il y a le courrier des lecteurs et les gens donnent volontiers leur adresse. Donc les fans, les lecteurs, les auteurs, tout le monde peut éventuellement s'écrire, se répondre, et ça crée tout un réseau qui n'existe pas aussi dans le vrai
monde. Ça crée le fandom en 1930.
Ça crée le fandom, et donc les gens qui commencent à faire les premiers fanzines spécialisés, parce que d'un Small Press, il y en avait depuis bien avant, parce que c'est là-dedans que Lovecraft a commencé. Et en fait, c'est vrai que l'événement majeur... Lovecraft, c'est personne, hein. C'est une poignée de gens qui considèrent que c'est un auteur génial et tout, mais en fait, personne ne le sait aux États-Unis, encore moins dans le reste du monde. Et dans les années fin 40, apparaît cette notion d'éditeur spécialisé, la Small Press, c'est-à-dire des gens, des fans, se prennent en main et se disent quand même ce problème d'impermanence des textes, et c'est un vrai problème, c'est qu'on n'a pas d'histoire littéraire parce qu'on n'a pas le matériau, on n'a rien, il faut absolument sauver de l'oubli ces textes, les meilleurs en tout cas, et sous forme de livres. On va faire des livres qui seront dans les librairies. Donc c'est pour ça que des gens font Arkham House, et comme c'est des potes à Lovecraft qui lancent ça, c'est pour ça que c'est Lovecraft qui est mis à l'honneur très vite chez Arkham. Mais si on regarde les tirages, et si on regarde les catalogues de l'éditeur, on s'aperçoit que des bouquins tirés à 1000, 1200, 1500 exemplaires, 10 ans après, sont toujours disponibles. Donc les livres existent, mais il n'y a pas les acheteurs, ou en tout cas très peu. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça vers 1977, et en 1977, donc 35 ans en gros à peu près après le lancement d'Arkham House, 80% du catalogue était disponible. Enfin, moi j'ai acheté toutes les lettres de Lovecraft et tout, c'était disponible, même les premières qui étaient éditées depuis des années. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne. Une fois qu'on en a vendu 500 à des bibliothèques, à des médiathèques, à des universités, etc., et qu'on en a vendu 300 aux fans purs et durs, il en reste 200 dans les cartons dont on ne sait pas quoi faire, quoi. C'est ça. C'est effectivement, Lovecraft acquiert enfin cette permanence éditoriale qui permet de faire la différence, parce que littérairement, c'était quand même un écrivain intéressant. Mais ce n'est pas pour ça qu'il acquiert un public, il ne faut pas rêver non plus. Hein.
Et c'est un peu le cas encore maintenant. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire souvent que c'est le plus méconnu des auteurs connus, parce qu'on a tendance à penser qu'il est effectivement très connu. Alors d'une part, ceux qui le connaissent généralement mal. C'est-à-dire qu'on va appliquer sur lui des stéréotypes qui ne lui correspondent pas forcément tout à fait. Et par ailleurs, si vous en parlez un peu autour de vous... Vous apercevez qu'il n'est pas si connu que ça, les gens le connaissent pas.
Il est connu, comme tu dis, mais il est aussi très censitaire. C'est-à-dire qu'il peut être connu de gens qui le détestent aussi, ou qui ne rentrent pas du tout dans cet univers, ou qui. Voilà, c'est quelqu'un qui est un marqueur aussi, par le côté radical aussi, de la forme d'horreur aussi, ça c'est aussi un autre sujet, mais qui est quand même très. Puisque c'est quand même sa contribution essentielle, c'est un certain genre d'horreur qui l'amène. Et on n'y est pas forcément sensible, et d'ailleurs pas forcément à n'importe quel âge. Je disais tout à l'heure en plaisantant, moi j'ai découvert Lovecraft quand j'étais adolescent. Et au départ, je trouvais ça très grand guignol. Moi, c'est majuscule partout et tout ça, Nyarlathotep et machin chouette. Et puis, c'est en le redécouvrant finalement, et puis en s'appropriant cette mythologie et en discernant la forme d'horreur en fait qu'il y a derrière, c'est-à-dire le discours qu'il y a derrière, que tout à coup, il prend toute sa dimension et qu'il sort du lot, parce qu'on n'est pas simplement dans le récit fantastique, on va dire gothique, hérité du passé. On n'est même pas dans le conte horrifique à la peau. On est dans une forme d'horreur métaphysique qui est du coup engage une discussion presque philosophique et qui est aussi de son temps. Alors ça, ça mériterait beaucoup de développement, mais c'est quand même son apport principal, c'est-à-dire un genre d'horreur qu'il invente, littérairement parlant.
Le succès public de Lovecraft, c'est pas Lovecraft, c'est Cthulhu. C'est le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, a contribué énormément à rendre le nom de Lovecraft connu auprès d'un public qui n'était pas à la base forcément public de lecteurs. C'est le produit dérivé, entre guillemets, qui fait connaître l'auteur. Donc les trois mousquetaires, ce qu'on appelle les trois mousquetaires de Weird Tales, Lovecraft, Ward et Smith. Aujourd'hui, on en a deux qui sont connus ou pas connus. Les auteurs, c'est quoi ta formule déjà ?
Les plus méconnus, les auteurs connus.
Voilà, on va connaître Lovecraft grâce à Cthulhu, on va connaître Howard grâce à Conan, et Smith aujourd'hui, c'est un auteur qui est en train de tomber complètement dans l'oubli parce qu'il n'a pas créé de mythologie,
de cosmogonie,
enfin, on appelle ça comme on veut, de trucs dans lesquels il y a quelqu'un qui peut vendre un produit autour. Il est difficile de vendre un produit sur Averroigne. Et ce qui fait que voilà, il y a des auteurs qui vont tomber de façon injuste, malheureusement, mais dans l'oubli. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui permet de pouvoir asseoir leur notoriété.
Alors, cela dit, c'est vrai que le jeu de rôle, l'appel de retour, je crois que c'est 81, Sandy Peterson a un impact très fort sur les ventes. Mais enfin, tu as quand même pour Lovecraft en 69 le Cahier de Lerne dirigé par Truchot. Non, c'est pas rien quand même pour un auteur d'avoir
le Cahier de Lerne. Mais ça va impacter
c'est
quoi
très élitiste quand même.
Ça va impacter quoi ? 450 personnes ?
Oui, puis c'est en France.
Ouais. Oui, non, mais sans faute, enfin, c'est quand même pas anecdotique, mais je pense que 500 personnes, on y est encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'avec Patrice, on caresse un doux rêve. Si on le fait, on sait que c'est 500 personnes. Hein.
Ben, parlons-en rapidement, puisque on caresse un doux rêve.
Pour creuser justement dans cette idée, justement.
Je ne veux pas creuser.
Comment expliquez-vous que Lovecraft, en tant qu'homme, semble avoir quelque part engendré sa propre mythologie, en fait, et suscité peut-être parfois, peut-être même plus d'intérêt que son œuvre. En fait, il y a énormément de mystères. Et de mythes qui entourent sa vie, en fait, quelque part aussi.
On n'est pas
autour de mythes et de mystères.
Ouais. Non, mais là, il y a un problème, parce que si tu veux, effectivement, en ayant beaucoup travaillé le sujet avec Patrice, notamment la correspondance, on a découvert certains trucs. Mais je pense qu'on a pris la décision de ne pas en parler. Je pense qu'on a bien fait.
Non, mais sérieusement, Lovecraft, comme disait Francis tout à l'heure, a écrit peu de nouvelles comparativement aux auteurs de pulp de l'époque. Hein, on a 50 nouvelles, on va dire, hein, choses comme ça, sur toute sa carrière. Si on compare ça, je sais pas, l'auteur du Shadow, Walter Gibson, écrivait 10 mots par jour en moyenne. Donc c'est des gars qui pondaient des kilotonnes de textes. En revanche, on estime, alors on ne sait pas trop parce que les chiffres sont totalement délirants, mais le chiffre qu'on a habituellement, c'est 100 000 lettres.
Pour ce qui font à peu près, je sais quoi, 40, 50, c'est un truc de dingue.
Non, mais, alors, je sais pas.
Lovecraft, on considère qu'aujourd'hui, c'est l'homme au monde qui a le plus écrit, en tout cas de lettres. C'est l'une des personnalités les plus documentées à cause du nombre de lettres qu'il a pu écrire à droite, à gauche, tout ça, racontant, parlant de sa vie, de la politique, des œuvres littéraires, etc.
Et donc,
de ce point de vue-là, c'est un graphomane.
Et donc, ça permet justement de pouvoir examiner son quotidien, parce qu'on sait exactement où il était le 3 juillet 1926 à 14h30. On sait où il était, quoi. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Donc, évidemment, ça, vu que l'œuvre a suscité un engouement critique, bah, quiconque s'intéresse à l'œuvre lovecraftienne, il a une mine de renseignements exploitables qui est monstrueuse. Et donc, on peut justement aller beaucoup explorer l'homme.
Il y a un côté iceberg, si vous voulez. C'est-à-dire que finalement, le sommet de l'iceberg, c'est l'œuvre, enfin, les nouvelles, tout ça publié, les poèmes, ce que vous voulez, les essais. Mais on a toute la correspondance, même si on a eu des extraits de la correspondance publiée aux États-Unis et en France aussi, dans les années 70, chez Bourgois, à volume. Mais finalement, tout ça reste à explorer. Mais c'est vrai, mais qui ça va intéresser ? Ça va intéresser, oui, 500 personnes. Cela dit.
Par rapport à cette histoire de mythologie, moi j'ai envie de dire, bon, on parlait de Weird Tales tout à l'heure, et là de la correspondance, j'ai envie de dire que si on veut avoir quelques éléments de réponse, on peut aller les demander à Lovecraft lui-même, et entre autres, dans les lettres justement où il parle de Weird Tales, et également au début de son fameux essai sur l'histoire de la littérature fantastique, épouvante et surnaturelle en littérature. Et en gros, moi ce que j'en retire, c'est que l'histoire de la littérature fantastique vue par Lovecraft, c'est finalement des vieilles choses, des choses qui ont fait leur temps, qui ont eu leur efficacité, qui sont basées sur nos peurs primales, mais c'était des peurs qui marchaient bien autour du feu de camp. On avait peur du noir, on avait peur des loups, on avait peur, voilà, et donc pour Lovecraft, le vampire, c'est jamais qu'une grande chauve-souris qui fait peur, assortie de quelques capacités supplémentaires. Tout ça, dans une civilisation moderne qui connaît l'électricité, ça peut plus tellement marcher. Et par contre, il faut creuser, il faut aller encore plus profond pour trouver des choses qui peuvent encore faire peur à des personnes de notre civilisation, de notre niveau d'évolution. Pour trouver ces choses-là, eh bien, il faut ne pas trop en dire. Il faut lancer des noms, il faut faire des évocations vagues. Et voilà, la fameuse citation comme quoi la peur la plus ancienne et la plus profonde de l'humanité, c'est la peur de l'inconnu. Donc il faut effectivement jouer avec l'inconnu. Il faut, on n'en parle pas souvent, mais Lovecraft a eu une phase où il était fasciné par les auteurs symbolistes et décadents, franco-belge, enfin français en particulier. Et donc voilà, il y a la fameuse citation de Mallarmé, suggérer, voilà le rêve. Donc plutôt pour Lovecraft, suggérer, voilà le cauchemar. Donc à partir de tout ça, on balance des noms, on utilise quand même quelques petites sources de... de vieil occultisme, puisque Lovecraft ne croyait absolument pas à tout ça, mais il avait une bibliothèque d'histoire de la magie ou de l'occultisme qu'il utilisait à titre de référence pour trouver des idées d'histoire, et puis une passion pour les sciences. En combinant tout ça, eh bien, on arrive, par tout un tas de chemins indirects, à l'idée d'un panthéon de divinités, ou qui nous apparaissent à nous, stupides humains, comme des divinités, qui en fait sont des êtres extraterrestres au-delà de nos compréhensions.
C'est-à-dire qu'il appelait lui-même, il qualifiait ses propres inventions, si vous voulez, de yogg-sothoth-ri.
Il les qualifiait même d'immatures. Alors ça a beaucoup été discuté sur ce qu'il entendait exactement par là, mais on sait qu'il n'était pas trop mécontent quand même de cette trouvaille, mais que ça ne lui paraissait pas parfait. On peut dire effectivement que sur la fin de sa vie, avec des textes comme « Les montagnes hallucinées », la yogg-sothoth-ri, c'est-à-dire à un moment l'espèce de grand diable qui apparaît dans l'affaire Charles Dexter Ward, est complètement mise de côté, au profit d'êtres qui sont purement matériels.
Les montagnes hallucinées.
Et susceptibles de descriptions scientifiques.
Les montagnes hallucinées, enfin, c'est vraiment, c'est un texte qui m'a profondément marqué. Je l'ai retraduit. Et puis pareil, plus tard, on a dans l'abîme du temps, ce sont des textes extrêmement intéressants parce que Lovecraft a beaucoup changé, il a beaucoup évolué par rapport à l'appel de Cthulhu, par rapport au texte 26-27, comme la recherche de Kadath ou des choses comme ça. On s'aperçoit finalement, oui, certes, il y a l'horreur, si vous voulez, mais je me demande quand même dans quelle mesure l'horreur n'est pas une sorte de. En partie une fausse piste, si vous voulez, chez Lovecraft.
Absolument, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le premier niveau de lecture qui est le niveau qui le ferait sourire, alors qu'il n'est pas trop porté au sourire quand même, mais qui le ferait sourire, qui est justement cette profusion de majuscules, ces allusions, etc. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle cache une autre horreur, qui est beaucoup plus universelle et qui nous touche tous, c'est-à-dire cette idée de l'absence de transcendance, ou de l'absence de, c'est-à-dire que l'idée que on est dans le monde étendu comme un voile devant nous, qui est une illusion solipsiste, on dirait en philosophie, c'est-à-dire tout est illusion sauf moi, et je suis perdu dans cet univers, et au-delà, il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire, on se raconte une histoire, on est dans un univers, en plus, au début du XXe siècle, où on sort de la révolution industrielle, c'est l'ère scientiste, on croit qu'effectivement la science va nous donner le contrôle, le pouvoir de la nature. Il y a une espèce, avant la guerre mondiale justement, il y a quand même une espèce d'espoir et de possession, de domination de la nature. Et en fait, lui se fait le reflet d'une absence totale, au contraire, d'espoir. Il y a même quelque chose de l'ordre de la puisqu'on parle de l'indicible, on va en reparler demain, mais de la vision prophétique d'une certaine manière d'un monde qui serait un monde purement mécaniste, un monde purement débarrassé de toute forme d'espoir et d'illusion. Et c'est celle-là la vraie terreur. C'est la terreur métaphysique du « je n'ai aucun espoir ». Et s'il n'y avait aucun espoir, et si on était tous des pantins gouvernés par des puissances, voilà.
Arnaud, tu dis qu'il n'y a aucun espoir. Enfin, de certaine manière, on peut considérer Lovecraft comme une sorte de Pascal sans la foi. C'est-à-dire que la vision de l'homme perdu au sein de l'univers est à peu près la même, si vous voulez.
Le silence
des espaces infinis, mes frères, etc. On est perdu entre deux infinis. Mais Pascal a le recours de la foi que n'a pas Lovecraft. Mais tu dis qu'il n'y a pas d'espoir. Je me demande quand même dans quelle mesure, d'abord avec les montagnes et puis ensuite avec dans l'abîme du temps, il n'y a pas l'amorce d'un espoir qui se matérialise, qui s'incarne dans l'autre, et notamment l'autre, le frère. En l'occurrence, on a quand même, il ne faut jamais oublier, dans l'abîme du temps, pour la première fois, on a une façon de héros, c'est-à-dire qu'on a un père et son fils qui vont mener une quête ensemble. Je me demande quand même. Chez Lovecraft, t'as pas l'autre qui peut être perçu comme vraiment un espoir.
Après, c'est-à-dire qu'il y a un ressort qui est intéressant. c'est effectivement, il y a eu à la fin, il y a eu un débat avec son exécuteur testamentaire, Derleth, là notamment, qui a voulu réintroduire dans ce panthéon de Dieu certaines divinités positives, par exemple. Ça a été très critiqué parce qu'en vérité.
Attends, excuse-moi, parce que c'est pas Derleth, son exécuteur testamentaire. Enfin, je parle sous le contrôle de Patrice, oui, là. Non. Mais c'est Barlow. Mais précisément, si tu veux, c'est-à-dire que ses relations avec Barlow. Moi, j'y trouve un écho dans sa nouvelle, celle dont je parlais tout à l'heure, là, dans l'abîme du temps. Si je vous dis que l'amour me paraît être présent chez Lovecraft, je pense que tout le monde va rigoler, mais c'est une thèse que je défendrai quand même.
Non, alors moi, ce serait peut-être plus, pas l'amour au sens, mais plus le rapport à l'étrangeté. C'est-à-dire, il y a quelque chose de la terreur d'enfant, d'ailleurs, qu'on retrouve chez Stephen King, etc., qui est quand même le moteur aussi de l'œuvre, quelque part. Abdul Al-Azred, la façon dont naît le poète dément,
oui, etc. Il était enfant à l'époque, ça restait de l'ordre du jeu.
Si oui, mais donc le jeu a perduré. C'est un jeu qui perdure, puisqu'il joue avec ses divinités, etc., de bout en bout. Donc peut-être que dans ce rapport-là, oui, il y a quelque chose de l'ordre, on va dire, de la chaleur humaine, si tu préfères. Pour le reste, les signes sont quand même pas édifiants.
Moi, ce que je voudrais dire, un petit mot par rapport à les montagnes hallucinées et dans l'abîme du temps dont on vient de parler. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une horreur qui a multiples niveaux dans ces histoires-là. D'abord, il y a le niveau le plus vulgaire, celui des créatures répugnantes, parce que malgré tout, c'est des descriptions de monstres absolument bizarres. Le deuxième niveau, c'est un niveau un peu plus métaphysique. C'est le fait de se retrouver face à ces créatures, pas seulement d'avoir leur aspect répugnant, mais aussi d'être obligé de réaliser toutes les implications de leur existence même. Et le troisième niveau, je dirais, c'est quelque chose qui préoccupait beaucoup Lovecraft, qui est un niveau civilisationnel. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, le héros s'est rendu compte que ces monstres répugnants étaient en fait des êtres intelligents et même supra-intelligents qui avaient créé des civilisations étonnantes. Et l'horreur suprême, c'est que, par suite d'une petite erreur qu'ils ont commise, ces civilisations sont effondrées.
Christophe, c'est extrêmement clair dans la nouvelle. C'est-à-dire que les créatures là, dont Christophe parle, dans la nouvelle, elles sont décrites de la manière suivante. Les mots que Lovecraft emploie, ça commence par « things », les choses, les objets. Puis, petit à petit, les personnages apprennent à mieux les connaître, ça devient des « creatures », des créatures. Puis ça devient des « beings », des êtres. Et à la fin, quand il comprend vraiment ce qu'elles sont, ces créatures, à quel point elles ont constitué, elles aimaient la beauté, c'était aussi, il y avait une âme d'artiste, et elles aimaient la beauté plus que nous, les hommes, pouvons l'aimer, il les appelle même « humains ». Il dit c'était des humains comme nous, etc. Et il y a toujours chez Lovecraft évidemment ce souci de l'intelligence qui va être, comment dire, condamnée et mise à mort par la bêtise aveugle.
Ce qui est intéressant dans ces deux textes dont on parle depuis un petit moment là, c'est que c'est quasiment les deux seuls textes de Lovecraft qui ont été publiés dans des pulps de science-fiction au départ, et qui surtout sont les seuls qui trouvent un tout petit peu grâce aux yeux de la critique de son temps. Pour faire le petit bouquin que j'ai fait là pour la maison d'ailleurs, où je parle un peu de Lovecraft, j'ai passé beaucoup de temps à chercher dans la presse américaine de l'époque, à la fois les critiques dans les pulps et puis les critiques faites par des critiques littéraires dans les journaux. Et puis j'ai cherché aussi dans les travaux universitaires un petit peu, tout ce qui tournait un peu autour de la fantasy ou début de la SF et tout, pour voir quelle était la place que ces gens accordaient à Lovecraft. Et je me suis rendu compte que quasiment personne ne parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas. Quand parfois il est cité, c'est pour dire en gros que c'est de la merde, que c'est des trucs de débile. Enfin, je veux dire, j'ai relevé des extraits pour pas trahir la pensée des gens. J'ai relevé des extraits, ils sont dans mon bouquin, vous pouvez le feuilleter, même pas obligé de l'acheter, juste feuilleter. C'est assez édifiant ce qui est dit sur lui, sauf ces deux textes-là. Où il y a effectivement un critique universitaire qui les analyse assez longuement et qui a ces mots, qui dit « mais c'est incroyable, faudra bien qu'un jour ce type soit évalué à sa juste mesure, parce que qu'est-ce que c'est bien ?» Et ça fait référence à ce que tu dis, c'est qu'il y a dans ces textes-là bien d'autres choses qu'une simple histoire de fantastique ou science-fiction de Pulse. Ça touche à... Enfin, je veux dire, ça touche à la nature humaine, ça nous fait réfléchir à plein de choses. Et ces deux textes-là sont effectivement remarqués. Alors, par une seule personne, certes,
c'est un auteur. Juste une chose, c'est que c'est un auteur stupéfiant dont on n'a pas fini de prendre la mesure, hein, ou dont on ne commence précisément qu'à prendre la mesure là. C'est un auteur vraiment hallucinant. Hein. Je dis ça sans mauvais jeu de mots. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'horreur. Il y a une question qui peut être intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce que l'horreur chez Lovecraft. On peut s'amuser à faire des parallèles entre ce qui est horrible pour lui et la forme, une sorte de correspondance entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'il écrit un type de littérature qui peut être considéré comme étant horrible aux yeux du grand public. D'accord ? Je pense que ce n'est pas un hasard chez lui, ça. Par ailleurs, il parle de l'horreur et il essaye, d'une certaine façon, notamment c'est très clair dans Les montagnes hallucinées et autres, de rétablir une certaine forme d'horreur, a priori, à première vue, comme étant en fait autre chose que l'horreur, mais de la beauté. Et réfléchissons-y, qu'est-ce qui, selon Lovecraft à l'époque, peut être perçu comme abominable aux yeux du grand public? Il ne faut jamais perdre la notion du grand public pour lui. Donc, qu'est-ce que le grand public va juger comme étant abominable, mais qui, en fait, pour une petite élite, n'est pas abominable, loin de là, mais plutôt très proche de la beauté. Bon, j'ai une piste. Hein.
Sont tous enregistrés. Hein.
Non, il y a un parallèle amusant à faire avec Stephen King, qui s'est beaucoup évidemment inspiré de Lovecraft, et qui a, vous avez peut-être lu son Anatomie de l'horreur, justement. Alors c'est assez marrant parce qu'il explique de manière un peu plus basique qu'en gros, pour lui, il y a trois sources. Il y a l'horreur gore, etc., qui est l'horreur du mauvais goût, mais qui éclabousse et qui vous fait sursauter. Il y a l'horreur psychologique qui est celle d'un Hitchcock ou d'un Polanski dans ses bons jours, genre Répulsion ou Le Locataire, où on n'est pas dans le sang ou l'abomination montrée, etc. On est dans la névrose et l'obsession psychologique ou les rapports, voilà. Et puis on a cette fameuse horreur surnaturelle ou métaphysique qui en effet, à son degré ultime, a quelque chose d'esthétique et qui est sans doute assez raccord en effet avec la personnalité de Lovecraft, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de beauté noire ou de poésie funèbre qui est quand même qui innerve, qui irrigue l'ensemble de son œuvre finalement. La couleur tombée du ciel, par exemple, c'est presque un texte poétique, il y en a beaucoup comme ça en fait. C'est cette espèce de poésie noire, décadente à certains égards, mais qui traduit une espèce de complexe de supériorité esthétique aussi quand même, en même temps, enfin de sentiment, d'aristocratie esthétique en tout cas, mais qui est le revers du respect qu'il lui porte, c'est-à-dire qu'en même temps, il en a une très 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 haute opinion. Autrement dit, il dit qu'avec le fantastique, on est dans un genre suprême de littérature qui confine à la poésie finalement. Et quand on le lit sous cet angle, il a souvent pas tort pour ses meilleurs textes, ouais. Donc, comme les montagnes hallucinées.
Lui-même d'ailleurs a commencé par la poésie quelque part.
C'est-à-dire qu'avant de publier Dagon, il a consacré 7 années à la poésie.
Oui, puis alors il faut voir la liste. Elle est reproduite dans la collection bouquins, par exemple, de ses recommandations de lecture. Parce que c'est aussi un gros lecteur, et donc il a lu énormément de classiques, de tout ce que vous voulez, et pas seulement du fantastique ou dans sa niche. C'est-à-dire, il est extrêmement cultivé, quoi. C'est un fou furieux. Et donc ses conseils de lecture sont assez intéressants. Reprenez sa liste, lisez tout déjà comme lui, puis déjà, c'est impressionnant.
On a abordé le sujet tout à l'heure, et je pense que c'est une question intéressante, par rapport à la place de la femme dans son œuvre. On passe certes un peu du coq à l'âne, mais ça me semblait intéressant dans le sens où, en effet, il a vécu toute sa vie auprès de femmes. Bah, il a vécu avec ses tantes une grande partie de sa vie au début et à la fin. Pour
sa mère aussi, quand même.
Avec sa mère. Il a été marié quand même, donc il a aussi vécu avec sa femme. Alors comment vous, en tant que... après vous êtes penché justement sur son œuvre, vous pouvez expliquer que finalement, après... la place de la femme dans son œuvre, elle est quasiment inexistante.
C'est au fond à gauche.
Quasiment,
hein.
Oui. Enfin, c'est au fond à droite. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de pudeur. Enfin, je parle vraiment. Alors là, je vais vous dire, c'est très. Je ne suis sûr de rien. Je livre un sentiment, une partie de pudeur. C'est-à-dire que, par pudeur, ou un certain sentiment d'aristocratie, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas et on ne parle pas de ce qui ne fait pas partie de soi. Il y a une autre chose qui, moi, m'avait amusé dans la recherche de Kadat, c'est rigolo, parce qu'il y a des scènes qui se passent dans les cabarets, il y a un côté un peu fantasy, tout ça, donc le personnage, on va dans des auberges. Et alors, contrairement à d'autres auberges, où il y a des serveuses, si vous voulez, là, si vous regardez le texte en anglais, Lovecraft, il ne va pas dire people, il ne dit pas des gens, par exemple, il dit men, c'est toujours des men. C'est des men qui servent, c'est pas des gens, hein. C'est vraiment c'est des hommes.
Ouais, moi, je dirais pas prude, je dirais carrément puritain.
Ou puritain, oui, tu peux dire ça comme ça.
Il y a une différence entre les deux.
C'est pas tout à fait exact, en fait. Je relisais il n'y a pas très longtemps des lettres dans lesquelles ils discutent soit de sexualité, et en particulier, il y a un...
Mais attends, l'œuvre publique, la correspondance, c'est autre chose.
L'attitude de puritanisme. Il y avait un moment, il discute avec un de ses amis, qui est la nudité dans l'art. Et il énumère les différentes sortes d'utilisation de la nudité, etc. Et il dit que seul un pervers, ce qui est une utilisation assez amusante du terme, pourrait objecter pour des raisons de pudeur ou de décence à l'utilisation de la nudité dans l'art, c'est absolument pas gênant, etc. Je crois que ça avait rapport avec les couvertures de Weird Tales. Alors il complétait en disant que ce qui est dommage, c'est que toutes les femmes nues sur les couvertures de Weird Tales n'ont absolument aucun rapport avec le contenu du livre, donc c'est un peu embêtant d'un point de vue artistique.
Non mais Christophe, tu commences toi-même comme ça, tu dis « il parle avec un ami ». Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit d'un discours privé. C'est pas, il s'ouvre pas au public.
Non, mais il reste intéressant que on parlait tout à l'heure du Roi en jaune, par exemple, etc. Quand on lit le Roi en jaune, et on s'aperçoit quand même l'essentiel du contenu. D'ailleurs, c'est ce qui fera beaucoup Chambers, c'est-à-dire ensuite il y a du roman sentimental derrière. Donc la femme est très présente, alors que c'est un des inspirateurs premiers de Lovecraft, la femme est très présente, la relation humaine homme-femme est quasi omniprésente. C'est vrai qu'on peut se poser la question de l'occultation de la femme chez Lovecraft, qui est quasiment...
Parce que Cthulhu ne serait pas son plus grand personnage féminin.
Alors, mais moi, c'est une question que je relais, parce que je n'ai pas la réponse. C'est effectivement...
Mais cela dit... Non, mais attends, à part chez Peter Jackson, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes non plus chez Tolkien. Hein.
Mais il n'y en a chez personne.
Chez Howard, on a quand même...
Dans les années 20, aux États-Unis, la littérature est le reflet du monde dans lequel elle est écrite. Dans les années 20 ou 30 aux États-Unis, les femmes, elles sont où? L'immense majorité, elles sont dans les foyers à faire la popote, à faire la lessive et à torcher le cul des gamins. Il y a une petite minorité qui sont des prostituées, puis il y a une minorité encore plus petite qui sont les nanas qui lancent un peu le féminisme et tout. Et celle-là, elle terrorise les mecs, de toute façon. Donc, il n'y a pas de femmes parce qu'elles n'ont pas leur place à cette époque-là. Elles n'ont pas réussi à les trouver. Les mecs ne leur laissent pas. Puis c'est la tradition. Puis c'est le judéo-christianisme. C'est les protestants qui sont encore pires.
Enfin, non, mais ce n'est pas un sujet intéressant.
C'est un monde de merde. Donc on n'a rien à foutre.
Il n'y a même pas de femmes dans le décor chez la femme.
Il faut quand même dire un mot de ces personnages féminins.
Lesquels?
Alors, la femme albinos qui...
Non, mais tu en as quelques-unes. Tu as la mère de je sais plus qui.
Voilà,
t'as la sorcière, Goodwin, je sais pas comment elle s'appelle.
Sylvia Mason, la sorcière de la maison de la sorcière.
La sorcière, bon...
Il y a la femme du pauvre Edward Derby qui, en fait, est habitée par l'esprit de son père. Donc, en plus, avec...
Vous avez remarqué que personne n'a donné de nom pour l'instant. Sur la femme, la factrice...
Si, mais non.
La concierge au fond du couloir.
Non.
La sorcière, enfin... Attends, il n'y en a pas.
Donnez-moi. Allez, donnez-moi 3 minutes, je vais vous chercher 3 noms.
Mais voilà, mais
un nom par minute.
Alors que les héros masculins sont, enfin les protagonistes sont partout, ce sont des hommes. Il n'y a pas de femmes.
Oui, d'accord. C'est pas un sujet non plus. Il n'était pas forcément expert.
C'est très intéressant.
Mais d'accord, je dis juste, il n'est pas expert, il ne parle pas de ces trucs-là. Et voilà, il a
moi, je pense qu'on peut aller au-delà de ça. Je pense qu'il y a le fait que la femme n'apparaisse pas, ça correspond vraiment à quelque chose.
Mais bien sûr, ça correspond à quelque chose. Quand il dit men dans une auberge au lieu de people ou autre, c'est pas compliqué de dire waitress pour une serveuse, quoi.
Donc le fait que la femme n'apparaisse pas, ça trahit quand même quelque chose au niveau de l'homme, de ce qu'il écrivait, de ses propres choses. Et sans faire du Freud de bas étage, qu'on commence par Dagon et qu'on finit par Cthulhu à chaque fois qu'on a une divinité marine, etc., poulpesque, la version fruit de mer de Lovecraft, je ne vais pas faire du Freud
Moi non plus. Je vais aller un peu plus loin que ton Freud. Moi, je vais faire du Freud à 3 balles. Mais justement, les rapports avec Barlow et autres, regardez les nouvelles... Mais c'est Robert... pas simplement. Non, alors justement, je disais l'horreur. Qu'est-ce qui peut être horrible pour un homme, fin de race, ce que vous voulez, des années 20 aux États-Unis?
Non, alors attends, tu as prononcé un mot intéressant. Il y a deux choses. D'abord, il y a cette obsession de la race dégénérée. Alors ça, c'est intéressant comme entrée, justement, parce que Dieu sait qu'il y a une postérité lovecraftienne là-dessus, cette espèce d'angoisse, mais qui est liée à l'étrangeté et au sentiment de la folie atavique et aussi de l'héritage.
L'étrangeté, justement,
la peur d'être soi-même, de l'étrangeté en soi, parce que c'est quand même ça. Sous la mer, il y a Cthulhu, sous la mer, il y a les crustacés, sous la mer, il y a la terreur de la femme aussi, sans doute, oui. Il y a la terreur de toutes les passions qu'il faut, et qui ne sont pas nommables, parce qu'elles font peur, parce que tu leur colles des majuscules, et elles sont là. Et
mais
nomme-les
alors.
Dans l'image, peut-être l'image de la mer, l'image de la folie de la mer, l'image de la folie d'un monde comme ça, qui est avec des entités incompréhensibles, et donc sans doute qu'il y a cette peur-là de la folie dont il a pu hériter et dont il se sent porteur, peut-être. Et qui est cette espèce d'étrangeté à soi, c'est-à-dire comment est-ce que moi je vais arriver à dominer mes émotions par rapport à ça, et donc je les mets au loin, je les mets sous la mer, et puis ils sont là, les crustacés, il ne faut pas trop qu'ils sortent.
Ce qui est rigolo, c'est que...
Ne pas oublier le fait que le père de la Lovecraft est mort de la syphilis, il est mort du sexe.
Mais bien sûr.
Donc,
il y a un autre truc qui est fascinant, c'est que quand il parle avec... son nom m'échappe là, Sonia, sa femme.
Sonia Green.
Il dit avec elle tout ce que je sais de l'amour, je l'ai surtout appris dans les livres. Je trouve ça absolument charmant.
Alors justement, c'était ma question, c'est qu'est-ce qu'on sait de la relation de couple qu'il a eue avec cette
normal.
Femme
parce que... Non, c'est une relation normale. Elle a écrit.
Et semble-t-il, ils seraient toujours mariés. Enfin, je veux dire, là, ils sont morts tous les deux. Mais
le divorce n'a jamais été.
Lovecraft n'aurait jamais renvoyé les.
Et autre chose qui va dans le sens de la discussion qu'on a, c'est le fait, les amitiés de Lovecraft. C'est quand même étonnant qu'il se rapproche beaucoup de Barlow à partir de 33. Donc Barlow, c'est je crois qu'il a 16 ans ou 17 ans lorsqu'il devient ami. Lovecraft va chez Barlow en Floride. Donc Barlow, c'est quelqu'un qui il est très jeune par rapport à Lovecraft, il n'a même pas la moitié de son âge. Il est homosexuel, il va se suicider à cause de 151. Autre meilleur ami, c'est Henry Whitehead. Henry Whitehead, qui apparemment était prêtre, lui, en Floride, à Dunedin.
Tout est dit. Mais il faut imaginer une sorte de Michael Jackson blanc wasp, quoi. Enfin, vous voyez, wasp.
Donc, et en fait, je pense que les amitiés de Lovecraft en disent énormément sur lui, cette chose qui n'arrivait pas à sortir, et je pense que, clairement au niveau de la sexualité, et qui était voilà, ces amitiés alors, masculines.
Il faut lister les amitiés féminines aussi. Et toutes les amies de la presse amateur, c'est qui il va passer plusieurs jours dans les années 1918-1920, quand il y a des conventions, etc. Voilà, il n'avait pas particulièrement peur des femmes, il leur répondait, en fait, il écrivait aux femmes comme s'il écrivait à des hommes, il ne faisait absolument pas la différence.
Oui, mais je pense que ça apporte de l'homme au moulin plutôt qu'autre chose, hein, cette remarque.
Bon, j'espère que notre intérêt pour Lovecraft ne dit pas de choses sur nous, quand même. Ou plutôt sur vous, d'ailleurs, je pense.
Non, on parlait d'amis, là.
le temps a passé beaucoup plus vite que ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous avez des questions
C'est pour ça qu'on a faim.
Réfléchissez entre vous, choisissez trois questions, on répondra aux deux les plus intéressantes.
Moi, je voulais parler du Lovecraft poète, parce que vous avez parlé de son essai, vous avez parlé de ses nouvelles, mais il a été aussi poète.
Pendant 7 ans, oui, absolument.
Il a écrit quelques poèmes qu'il a fait paraître dans les journaux, j'en ai lu quelques-uns. Il y en a un où il compare un nègre à un singe. Quelle était son activité vraiment de poète? Est-ce que c'était une activité importante?
Oui.
Énorme.
Très important. Il a consacré cette année entière à la poésie avant de publier des nouvelles. Et d'ailleurs, quand on le traduit, enfin quand on le lit, on se rend compte que les sonorités même des mots évidemment choisis, enfin il n'écrit pas par hasard, Lovecraft, c'est pas un type qui jette des mots sur une page. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que les sonorités des mots, le rythme des phrases, tout ça c'est très 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 important et il faut absolument tenir compte. C'est-à-dire d'une certaine manière, c'est presque de la prose poétique. Ce qui fait aussi qu'il est particulièrement difficile à traduire.
Il faut se souvenir que Poe était traduit par Baudelaire aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un espèce de continuum intéressant, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté esthétique, ou esthétisant même, une certaine forme de littérature, de genre, mais portée à son paroxysme, qui est en fait la défense d'une cause esthétique, c'est l'idée qu'on fait de la poésie aussi, et le fait de mettre des majuscules, le rapport, on a cité Mallarmé, pourquoi ces noms tombent?
Il y avait Baudelaire aussi, il y a Baudelaire en exergue d'une de ses phrases, d'une de ses nouvelles.
Mallarmé, hein. L'hermétisme, bien sûr, on est dedans.
Les trois mousquetaires d'Aubertel sont tous les trois des poètes.
Absolument, Smith est un grand poète aussi.
Par contre, il y a une grosse production, le volume de la poésie complète de Lovecraft est un gros bouquin, mais là-dedans, il n'y en a qu'une petite partie qui est vraiment intéressante. Là, il y a beaucoup à jeter. Lovecraft, effectivement, a commencé, il se voyait au début comme poète, mais il se qualifiait de mécanicien de la rime. C'est-à-dire qu'il utilisait les règles de la poésie anglaise du XVIIIe siècle, avec les couplets héroïques, les pentamètres iambiques, etc., des choses qui sont un peu étrangères à nos conceptions francophones de la poésie, pour, disait-il, recréer mentalement l'atmosphère artistique de cette époque du XVIIIe siècle anglais qu'il adorait. Donc on obtient comme ça des rames et des rames de poèmes qu'il qualifiait lui-même de sans intérêt. Du genre « Voilà le printemps » ou du genre « Bon anniversaire, cher ami » ou des divagations racistes comme celles que vous avez mentionnées. Et puis petit à petit, à partir, d'abord graduellement et puis avec un gros sommet dans les années 29-30, il se met à faire du poème fantastique avec une langue qui échappe à tous ces vieux canons de la poésie anglaise, qui est plus originale, et ça donne les Fungi de Yugot, où il a vraiment un développement, où il y a des éléments d'ailleurs de la mythologie de Cthulhu, si on peut appeler ça comme ça, qui apparaissent en particulier, et ça fait vraiment des choses qui valent la peine d'être lues.
Dans les Fungi, il va conserver quand même une forme qui est classique, c'est le sonnet, avec la rose
oreille. Oui, c'est quand même des sonnets.
Même dans l'écriture des nouvelles, quand on les dit en anglais, il y a cet archaïsme de la langue qui va se confronter à une certaine modernité dans l'approche justement des thématiques de l'horreur.
C'est vrai sur le fond aussi.
C'est très intéressant dans les montagnes hallucinées, c'est fascinant parce qu'on va vers, c'est un chemin vers la poésie. Hein. C'est-à-dire qu'on commence avec des termes. Il faut toujours regarder Lovecraft, c'est très souvent l'histoire d'une histoire. C'est-à-dire comment une histoire arrive jusqu'à nous. Et y compris, il y a des questions de traduction, de transmission, etc. C'est fascinant dans les montagnes. Et les montagnes, au tout début, si on cherche les mots, il y a des mots techniques pour des descriptions de grues et autres. Et c'est pas un hasard, je pense, si d'ailleurs Papy n'avait pas. Il a zappé plusieurs passages dans sa traduction des montagnes. C'est génial de voir la manière dont le vocabulaire même employé par Lovecraft dans ses nouvelles évolue. c'est fascinant, ça, on dit non aussi. Hein. Mais il faut se méfier sur les noms, on dit souvent comme ça, Azathoth, Toxototh, il ne faut jamais oublier que ce sont des noms qui n'existaient pas à l'époque, puisque, comme l'a si bien dit Francis et puis aussi Patrice, les pulps, quand on les secouait légèrement, il y avait des petits bouts qui tombaient, et on sait que les premières transcriptions des nouvelles de Lovecraft, c'est fait à partir d'un pulp qui a été secoué, il y a plusieurs consonnes qui sont tombées, d'où les noms qui sont restés, comme ça, avec des O, etc. Mais on a pu reconstituer les noms véritables de ces créatures en rajoutant les consonnes qui étaient tombées à terre, qui ont été retrouvées. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous.
Faut pas les prononcer.
Il boit cette eau-là, hein, ceux qui veulent avoir les mêmes effets.
Non, mais cela dit, alors je dis ça, c'est vrai que je plaisante, et je plaisante, et pas tant que ça, parce que l'un des soucis qu'on a quand on traduit Lovecraft, c'est ça, c'est de.
Comme pour Tolkien aussi.
Comme pour Tolkien, c'est quoi le texte? Non, mais je plaisante pas, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on traduit? Est-ce qu'il dit. C'est wild ou c'est mild? Ça paraît bête, hein, je veux dire, mais c'est W-I-L-D ou c'est M-I-L-D? C'est Red Masters ou Real Masters? Et à un moment donné, si vous voulez, le nom m'échappe là. Enfin, il faut savoir simplement comment dire. C'est pas tout de le traduire bien. Il faut encore traduire bien le
retranscrire.
Le bon texte de départ. C'est-à-dire qu'il y a des bons traducteurs qui ont malheureusement, je dirais, bien traduit des mauvais textes.
Une anecdote que je citais hier avec au cours d'un repas, c'est que il y a quelques années, lorsqu'on a eu l'accès à la totalité des archives de Ward, il y avait quelques centaines de pages qui étaient encore inconnues, et on a trouvé des pages qu'on ne savait pas les identifier, et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un certain temps que c'était la correspondance. On disait tiens, et correspondance avec Lovecraft. Et en fait, il a fallu qu'on lise les lettres en question, les pages en question, pour se rendre compte que non, c'était pas ça. C'était des lettres de Howard à Lovecraft, parce que Lovecraft écrivait vraiment comme un sagouin, pire qu'un docteur. Je suis désolé pour les docteurs de la salle. Et en fait, ce que faisait Howard au début, c'est lorsqu'il recevait une lettre de Lovecraft, il prenait sa machine à écrire et il faisait une retranscription de la lettre pour pouvoir la comprendre et y répondre. Et donc, on voit la retranscription. Donc, et parfois, elles sont différentes de ce que notait Derleth. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des interprétations possibles. Et puis, tous les 10, 15, 20 mots, Lovecraft, il y avait « one word here ». Parce qu'il n'arrive pas à lire le mot et même qu'on voit le truc, on n'arrive pas à savoir ce qu'il a écrit. Donc, c'est vraiment une écriture difficile. Alors, imaginez pour les gens... Barlow, Derleth, etc., qui avaient en charge de taper à la machine les textes, parce que Lovecraft détestait faire ça, on imagine très clairement le nombre d'erreurs qu'il peut y avoir sur la création du texte. En fait, je ne parle même pas du processus éditorial de parution et ensuite de traduction. Enfin, on pourrait durer une heure sur la question.
Il faut toujours être très, très, très humble, j'allais dire. C'est-à-dire avancer en disant, bon, ben voilà, on pense que la meilleure hypothèse, c'est ça, c'est la plus vraisemblable. Mais bon, on est toujours un petit peu dans l'approximation, quand même, plus ou moins.
La troisième et dernière question à laquelle on ne répond pas, c'était quoi? Bon, on va répondre, on va être gentil.
J'avais lu un article dernièrement que j'ai trouvé intéressant pour expliquer la célébrité de Lovecraft. Et l'explication qui était donnée, la façon dont il est devenu célèbre, c'est qu'il a partagé son mythe.
Oui, entre autres. C'était
une référence.
C'était open licence.
Voilà. Et justement, d'accord. C'était ça ma question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation?
Oui, je suis assez d'accord. Je ne peux pas dire que ça se réduise à ça. Ça serait trop limité.
Ça a contribué, très clairement.
Ça y a contribué, effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait un côté œuvre, comment dire, commune, etc. Chacun pouvait y apporter. On pouvait piocher des trucs, en ajouter.
Mais c'est raccord avec ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'était une espèce de club, à un moment donné, de communauté où on s'échange et où, avec des sourires complices, on va alimenter le mythe de l'autre. Donc, il y a des allusions à Necronomicon dans des nouvelles qui ne sont pas de Lovecraft, et réciproquement, on va alimenter. Et donc, c'est assez sympathique, d'ailleurs, parce que c'est cette espèce de communauté d'écrivains qui va, effectivement, créer ensemble cette mythologie. Et c'est certainement que ça a permis de ensuite...
Dans tout le milieu du fanzina, des petits procès, ça,
c'est
pas sympa.
C'est l'essence.
Il y a un côté borgésien.
C'est
la fiction qui crée le réel, si vous voulez.
Dans les années 70. Voilà, c'est cet esprit-là de d'auteurs communautaires, de collectifs et de renvois comme ça, de balles mythologiques, qui était encore dans les années 70, effectivement, avec les revues qu'on a pu connaître.
C'est toujours
un petit peu cassé la gueule.
De manière générale, la science-fiction est une littérature collective,
oui, ça.
Simplement parce que tous les gens qui écrivent la science-fiction sont des gens qu'on a lus, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, c'est tous des fans.
Il y a des codes.
De temps en temps, il y en a un ou deux qui vont dire non, c'est pas, je viens de la littérature générale, tu parles de toi.
C'est une logique de genre. On est
tous des fans, donc en fait, dans la science-fiction... Plus, c'est pour ça que plus ça avance, plus c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas tombé dedans petit d'accrocher et d'y trouver de l'intérêt. Parce que dans ce qu'on écrit aujourd'hui, quand on écrit aujourd'hui de la SF, il y a plein de choses qui sont censées être connues du lecteur. Donc on n'a pas besoin d'expliquer, nanana, et on part, on est dans un univers de science-fiction. Alors je dis science-fiction plutôt que fantastique, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que c'est censé être connu. On écrit tous le même roman. Chaque fois qu'un écrivain arrive, il rajoute une couche en piochant sur un fond commun qui a maintenant un siècle d'existence. Et c'est complètement fascinant. Et c'est la seule littérature qui fonctionne comme ça. Donc que l'œuvre particulière de Lovecraft fonctionne aussi comme ça, avec oui. ses épigones, ses suiveurs, et les admirateurs qui s'en emparent et tout, c'est juste normal. C'est juste normal. On fait tous ça.
Il y avait une anecdote très sympa au niveau de la première nouvelle de Conan Doyle, dans laquelle, à un moment, il y a Conan qui se retrouve dans un passage souterrain, et puis il y a des murs, etc. Et puis il voit un truc avec... il voit des bas-reliefs et des sculptures, des machins, avec, en anglais, alors, il voit une représentation des « old ones », avec des majuscules, donc les grands anciens dans la tradition française. Et le premier type qui avait traduit la nouvelle en France, « old ones », et donc du coup c'est devenu il voit un truc avec des statues de ses ancêtres ou de ses vénérables aïeux et tout, et elle, là, c'était juste assez marrant quoi. C'est comment passer complètement à côté d'un hommage, enfin, c'est...
parce qu'ils connaissent pas le contexte,
c'est comment est-ce qu'on traduit un truc quand on sait pas le faire, qui voit l'approximation, et très souvent ça va.
Que veux-tu, Cylon Carter?
Ah oui, c'est Cylon Carter.
Oui.
Merci.
Mais à cette différence près que la science-fiction, on reprend des thèmes, on reprend le thème des extraterrestres, on reprend certains thèmes. Lovecraft, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de reprendre, c'est plus un style, une façon d'écrire vraiment.
Pas au-delà du style, c'est des éléments, c'est des morceaux.
C'est des éléments.
Je dirais un catalogue de thèmes ou de motifs, plus qu'un style.
Oui.
Mais c'est dans la science-fiction, que tu es dans un vaisseau, tu appuies sur le bouton pour passer en vitesse subliminique, parce qu'il y a un trou de verre. Tu es en hyperespace, tu sais qu'il y a un trou de verre là-bas, tu es à l'autre bout de la galaxie. Bon, ok, et après, qu'est-ce qui se passe? On continue le bouquin. Personne ne se dit, oh, putain, comment ils font ça? Mais comment ils font ça? C'est censé être connu, tu vois, c'est censé être connu. C'est ça que je veux dire. C'est que...
Non, mais il y a un truc classique dans la SF, par exemple, c'est le mot en cible.
Oui.
Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin, en cible aujourd'hui, je pense qu'aucun auteur de SF ne va s'amuser, prendre la peine de vous dire ce que c'est qu'un en cible. C'est connu depuis, ça fait 50 ans, vous savez ce que c'est qu'un en cible.
Vous ne savez pas, peut-être, non.
Voilà.
Il y a que 110 ouais, mais c'est une convention Lovecraft en même temps.
C'est Lovecraft. Hein.
C'est Lovecraft.
Si on vous dit poulpe, tout le monde connaît. Tu vois.
D'ailleurs, en parlant de poulpe.
Qu'est-ce qu'on mange à midi?
ça n'a pas eu de mer. Par contre, on est, pour des impératifs de planning, on est obligé de clore la table ronde. Donc, merci d'avoir participé aussi nombreux à cette première table ronde, qui sera suivie dans plusieurs dizaines de minutes de la deuxième, en fait, qui sera consacrée à Alone in the Dark. Étant donné qu'on est à Lyon, c'est intéressant aussi de revenir sur le jeu.
Le succès. Voilà, Infogrames, le succès quand même.
Voilà. Et merci aux auteurs d'avoir accepté de répondre à mes questions. Finalement, j'ai pas pu poser beaucoup de mes questions, mais ils sont partis tout seuls comme des grands là où ils avaient envie.
C'est un métier.
Non, mais la salle nous a aidés aussi.
Très bien.